face à face, côte à côte, main dans la main. Le Festival d'Avignon est un lieu de rencontre, de croisement et de transmission, de bouche à bouche, de bouche à oreille, de in et de off, à voir et à entendre. Marmoun, Nini, Brel, Mochelan, cocktail du jour. Bruxelles, Le Caire, je vous propose aujourd'hui un peu d'interculturalité avec deux spectacles que l'on peut voir en ce moment au Festival d'Avignon. Nous sommes en direct depuis le début de la semaine. Marmoud et Nini, c'est un spectacle franco-égyptien d'Henri Jules Julien. Bonjour.
Bonjour.
Avec deux comédiens, Virginie Gabriel et Marmoud El Haddad. Bonjour à vous.
Bonjour.
C'est l'histoire d'une rencontre avec ses poncifs, ses préjugés, ses incompréhensions et au final une complicité.
Peut-être l'espoir d'une complicité, mais ou peut-être pas. Voilà, il y a pas de morale à l'histoire, mais en tout cas, disons, la porte n'est pas fermée à la fin.
Est-ce que vous connaissez Brel, Marmoud El Haddad?
Oui, bien sûr, monsieur.
Jacques Brel. Oui, Jacques Brel, le chanteur. Qu'est-ce que vous connaissez?
J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, mais les chances, je connais très bien, c'est Ne me quitte pas.
Ne me quitte pas, bien sûr. Et vous l'avez donc écouté en Égypte,
oui,
où
oui.
Vous vivez.
Oui, bien sûr.
Brel, que nous allons redécouvrir aujourd'hui en version slam avec Le Grand Feu, spectacle où Mochelan revisite celui qui est considéré comme une des grandes voix de la chanson francophone. Bonjour Mochelan.
Bonjour.
Vous êtes rappeur, mais en même temps, c'est large. Qu'est-ce que ça dit le rap? Ça dit plein de choses, c'est plein de styles.
Ouais, le rap, ça dit plein de choses, mais c'est surtout qu'il y a du rap francophone, il y a du rap français, il y a du rap belge, il y a du rap américain, il y a du rap allemand, il y a du rap italien. C'est une culture surtout, c'est une des disciplines du hip-hop. Et je pense que moi j'ai grandi dans les années 90, 90, mais je tiens aux années 90.
C'est normal, vous êtes belge.
Voilà. Et comme on m'a dit que c'était sur la langue et la parole, j'assume mes belgicismes sans problème. C'est une culture, c'est une manière dont on a grandi, alors qui est assez différente, je pense, de l'heure actuelle, puisque ça a changé, ça a évolué, mais c'était vraiment une mentalité. Le hip-hop et le rap était une des disciplines de cette philosophie de vie. C'est une question très très large. Alors, si on a deux heures d'émission, je veux bien répondre.
C'est pas le cas.
Mais ça n'est pas le cas, donc je vais m'arrêter là.
Alors, pourquoi un rappeur s'intéresse à Brel?
Moi, j'ai été introduit à Brel avant d'être introduit au rap. J'ai grandi avec Brel dans ma toute petite enfance, avec mes parents qui écoutaient beaucoup Brel, surtout ma maman qui m'a transmis ça quand j'avais 6-7 ans. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai transmis ça à mon fils qui a lui-même 6-7 ans, enfin qui est maintenant 7 ans, 6 ans l'année passée. Et c'est vraiment quelque chose qui se transmet génération en génération.
Oui, parce que vous n'êtes pas né hein, quand il meurt en 78. Vous avez encore quelques années avant d'apparaître et de chanter. Vous dites de Brel que c'est le premier des rappeurs.
Ouais.
C'est un peu un anachronisme, non?
Sans doute, mais on disait ça de Renaud aussi. Donc, moi, en fait, c'est dans le phrasé, c'est dans cette manière d'être dans l'urgence, de pas être dans la fabrication ou dans l'anticipation d'un succès ou dans l'anticipation de je vais écrire ça parce que ça va plaire ou je vais écrire ça parce que ça va passer sur les antennes. C'est vraiment une urgence de dire, une urgence d'extérioriser quelque chose. C'est en ça que je trouve qu'il y a une filiation avec le rap.
Donc, c'était une évidence pour vous de consacrer un spectacle à Brel.
Tout à fait.
Il s'appelle Le Grand Feu.
Ouais.
Et vous chantez quelques standards. Alors, il y en a un plutôt que j'adore, qui est une chanson que j'adore, c'est la chanson des vieux amants. Est-ce qu'on a écrit plus beau que la chanson des vieux amants? Mon
pas
amour,
du tout.
Mon doux, mon tendre, mon merveilleux amour.
Bien sûr, nous sommes des orages, 20 ans d'amour, c'est l'amour folle. 1000 fois tu pris ton bagage, 1000 fois je pris mon envol.
On pourrait presque applaudir, rien qu'à cela.
C'est la plus belle des chansons pour moi.
Alors, vous nous faites redécouvrir version slam ces standards de Brel. Vous nous faites aussi découvrir des textes beaucoup moins connus. qui justifie d'ailleurs le titre de votre spectacle, Le Grand Feu.
C'est ça. En fait, on a découvert un livre, c'est France Brel qui a sorti un livre il y a un an et demi maintenant, qui s'appelle Brel Auteur, et qui était vraiment la bible de notre travail de création, où il y avait évidemment tous les textes de Jacques Brel dans leur intégralité. Alors, elle mettait aussi beaucoup d'annotations, beaucoup d'anecdotes liées à l'écriture des textes, et beaucoup d'inédits. Et en effet, des textes qu'il a écrits dans son adolescence, dont Le Grand Feu, qu'il a écrit à 17 ans. Et c'était un peu le point de départ, oui. Et c'est devenu d'ailleurs le point de départ du spectacle. Mais tout était déjà là, en fait.
Oui, mais on voit un Brel qu'on ne connaît pas forcément, un Brel très engagé, très politique même.
Ouais, et ça, c'est ce qui m'intéressait. Et c'est surtout quand j'ai revu le morceau qui s'appelle « Le Diable ». Je l'ai relu, je ne le connaissais pas en version originale, donc je l'avais jamais eu dans l'oreille. Mais en le lisant, j'ai été halluciné d'actualité, en fait. Et on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris. Il y a 2 ans, bon, maintenant le temps est un petit peu passé, mais il y a 2 ans, on était dans une actualité quand même. Enfin voilà, je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé, et à Bruxelles aussi. Et cette phrase-là, je me suis vraiment dit, mais c'est dingue que cette phrase a été écrite il y a 50 ans. C'est absolument hallucinant, alors qu'elle pourrait parler, elle parle d'aujourd'hui. Et c'était en ça, et c'est pour ça que je dis que c'était le premier des rappeurs. C'est hallucinant d'actualité, en fait, vraiment.
Et c'est l'une des chansons qui ouvre pratiquement le spectacle.
Bavard. Il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre. Ça va. Les hommes s'amusent comme des fous au dangereux jeu de la guerre. Ça va. Des trains déraillent avec fracas parce que des gars pleins d'idéal mettent des bombes sur les voies. Ça fait des morts originales. Ça fait des morts sans confession. Des confessions sans rémission. Ça va. Rien ne se vend, tout s'achète, l'honneur et même la sainteté. Ça va. Les États se muent en cachette, en anonyme société. Ça va. Les grands s'arrachent les dollars venus du pays des enfants. L'Europe répète l'avare dans un décor de 1900. Ça fait des morts d'inanition. Et l'inanition des nations, ça va. Les hommes, ils en ont tant vu que leurs yeux sont devenus gris. Ça va. Et l'on ne chante même plus dans toutes les rues de Paris. Ça va. On traite les braves de fous, les poètes de nigauds. Mais dans les journaux de partout, tous les salauds ont leurs photos. Ça fait mal aux honnêtes gens. Et rire les malhonnêtes gens, ça va. Ça va. Ça va.
Le Diable, Jacques Brel, version Mochelan. Ça semble une découverte pour vous, Virginie Gabriel.
Complètement, oui, oui. Pourtant, je suis assez fan de Jacques Brel, mais je ne connaissais pas cette chanson. Et je trouve que, en tout cas, ça me donne envie d'aller vous entendre, vous voir. Voilà.
Et alors, vous, on ne le voit pas en radio, mais ce qui est très étonnant avec vous, Mochelan, c'est qu'il y a une sorte de... Il y a le même sourire que celui de Brel, il y a une même présence, et... Sans avoir la même voix ni le même phrasé, il y a une sorte de superposition d'images entre vous et Jacques Brel.
Oui, bah ça c'est peut-être.
Vous êtes... Non, mais voyez, vous n'êtes pas dans l'imitation, vous n'êtes pas dans à la façon de.
Ça c'était ma première.
C'est une façon de vous laisser traverser par la langue de Brel.
Et puis de toute façon, ça a vraiment été ma première quand on en a discuté avec le metteur en scène. J'ai dit moi je veux bien me lancer dans l'aventure, mais il est hors de question d'imiter, d'essayer de refaire. On voulait pas faire un cabaret, on voulait pas. Et puis voilà, en réécoutant, parce que bon, on n'a pas. Moi je le fais tous les soirs sur scène, mais j'ai pas l'occasion de m'entendre. C'était la première fois. Et en fait, je me dis mais évidemment, si le diable vient sur Terre en 2019, évidemment qu'il dirait ça. Évidemment que pour le diable, tout va bien. Tout roule, les états se muent en cachette, en anonyme société, ça va. C'est hallucinant. Je trouve
vous avez l'impression d'être un héritier de Brel?
Non.
Non,
j'aurais pas cette prétention-là. En tout cas, il y a une belgitude qui est là. Je pense qu'il y a une énergie aussi, mais ça qui est la mienne depuis que je suis tout petit, depuis que je suis né, donc je l'ai pas inventé non plus. Et peut-être que oui, cette superposition, elle se joue là, c'est qu'on est des gens dans l'énergie. Moi, je suis hyper kinétique, j'ai un TDAH depuis toujours. Je pense que Brel en avait un aussi, mais c'est comme les Jim Carrey, c'est comme Sarkozy aussi, on peut dire. Voilà, cette question d'être dans
l'agitation,
Mais ça, c'est maintenant, ça s'explique par l'activité neuronale. Donc il y a rien de spectaculaire, mais en effet, je pense que c'est une question d'énergie, une question d'être décomplexé par rapport à la langue aussi, parce que nous, on est belges, on n'est pas du tout dans, on n'a pas reçu une tradition de l'académie de la langue française, donc on prend beaucoup de liberté sans aucun complexe. Et c'est en ça où moi je me sens un peu différent de Jacques Brel, qui lui avait une diction mais vraiment parfaite. Il avait une écriture, une maîtrise de la langue française. Peut-être que justement, on leur a tellement, à cette génération-là, tapé sur les doigts pour parler un français nickel, parce qu'on sortait de la période où tous les patois devaient disparaître, et donc on arrêtait de parler le wallon, mais c'était la même chose que pour les basques, l'occitan, le breton, enfin c'est la même période, où la langue française est apparue, en fait. On essaie de nous faire croire que le français existe depuis des siècles et des siècles, alors qu'en fait, quand on regarde l'histoire, la langue française, elle a 60 ans. Pour la population.
Un petit peu plus de 60 ans.
Pour la population large, je parle.
Mais c'est vrai qu'elle est plus récente qu'on ne le dit. En tout cas, il y a quelque chose de Brel chez vous, et vous avez un nom, vous aussi. C'est un drôle de nom, quand même, hein, Mochelan. Il faut dire que c'est un Mochelan.
Mochelan.
Mochelan, c'est un pseudo.
Très bien.
Hein.
Ouais, c'est mon pseudonyme, Mochelan, que j'ai choisi moi-même.
Mais pourquoi Mochelan? Parce que si on le décortique Mochelan.
Ouais. Comme quelqu'un qui est moche et qui est lent. Mais parce que, voilà, moi, j'ai grandi avec le rap français des années 90 et qui m'a fortement touché, qui m'a fortement marqué, parce que je viens d'une ville, Charleroi, qui est aussi une ville avec une réalité très très compliquée économiquement et tout ça. Et en fait, du coup, dans cette transition, quand le rap a commencé à se néolibéraliser avec cette ambiance très ego trip, moi je suis le plus beau, je suis le meilleur, je suis le plus fort. Moi je dis ben voilà, moi je suis moche et lent, mais je peux rapper quand même. Et puis surtout, je cherchais aussi des jeux de mots, c'est pour ça que je l'appelle Mochelan. C'est comme je joue au basket, c'était le Mochelan avant de sauter vers le reste d'une vie à se relever.
Mochelan au théâtre des Dons à Avignon. Autre spectacle aux personnages et personnes se confondent, c'est le vôtre, Henri-Jules Julien, Marmoud et Nini, c'est la rencontre donc de Virginie Gabriel, qu'on a entendu en admiratrice de Brel, et Marmoud El Haddad en admirateur de Brel lui aussi. Et en fait, c'est un spectacle que vous avez créé sur mesure. C'est fait pour eux et avec eux.
C'est fait avec eux, ouais, complètement. C'est la rencontre sur scène de Marmoud et de Virginie. Marmoud est joué par Marmoud et Virginie par Virginie. On a pris la solution la plus simple. Et ils vont essayer de faire connaissance l'un de l'autre. Lui ne parle qu'arabe, elle ne parle que français. Leur dialogue est compréhensible par le public par une traduction simultanée qui s'affiche au-dessus d'eux. Et eux, on ne sait pas comment ça marche, peut-être que la traduction leur rentre directement dans le cerveau. Et ils vont faire beaucoup d'efforts, en fait, pour essayer de comprendre, peut-être même d'apprécier l'autre. Et cette rencontre, contrairement à ce que peut-être qu'on nous fait un peu croire un peu vite, en fait, elle s'avère extrêmement compliquée, ce qui est un des motifs du spectacle. Voilà.
Et comment vous avez travaillé? Parce que qui parle quoi? Virginie, est-ce que vous parlez arabe?
Non.
Henri-Jules Julien?
Non plus.
Marmoud?
Ah oui, bien sûr.
Bien sûr. Mais vous parlez français?
Oui, maintenant oui, je parle un peu français.
Mais pas au début du travail.
Mais pas au début du travail. Donc vous avez travaillé dans quelle langue?
Alors la langue franque, c'était l'anglais, que Marmoud parle plutôt très bien. Et Nini et moi plutôt moins bien, voilà. Donc c'était un peu laborieux.
Donc en fait, les conditions de préparation, de conception de ce spectacle se lisent aussi sur scène, puisqu'il s'agit de cette incompréhension ou de ces tentatives de compréhension. Ça devait être étrange pour vous, comédienne française, une première expérience de travailler avec un comédien qui ne parle pas votre langue.
Complètement, oui. La première semaine de travail a été assez fatigante et en même temps, on a beaucoup ri. On s'est voilà. En tout cas, c'était vraiment cette première semaine de connaissances et de rencontres. Donc, voilà, effectivement, je ne parle pas arabe, je ne comprends pas un mot d'arabe. Mon anglais est très limité. Dans la compréhension, ça va à peu près, mais dans la formulation, voilà. Donc, ça a été au niveau neuronal très une gymnastique assez fatigante, épuisante. Voilà, mais c'était.
Mais vous êtes là, et c'est, c'est un beau spectacle. Pourquoi, Mahmoud Haladat, vous avez accepté de faire ce spectacle dans une langue qui n'est pas la vôtre?
Ah oui, d'accord. Et c'est pas facile les costumes ça. Donc en Égypte, il n'y a pas beaucoup de chance pour une comédien égyptien pour faire un spectacle un autre pays en fait. Donc c'était une grande opportunité, oui, pour faire ce spectacle, exactement.
Parce qu'il faut dire, Henri-Jules Julien, que vous avez beaucoup travaillé en Égypte. Hein,
J'ai longtemps vécu en Égypte.
Vous avez longtemps vécu en Égypte, donc c'est à cette occasion-là que vous lui avez donné cette possibilité d'être aussi à Avignon et de travailler. Donc du coup, c'est une pièce qui est conçue et écrite à partir de questions. Il y a beaucoup de questions dans le texte que vous leur demandez de dire.
Mais la première session de travail dont Nini a parlé, on s'est vraiment. J'ai organisé leur rencontre, puisqu'elle vit toujours en Lorraine et Mahmoud au Caire, donc à 3000 km de distance. Et donc j'ai organisé physiquement leur rencontre dans une maison qu'on nous avait prêtée. Et devant un micro, on a commencé vraiment voilà, comment tu t'appelles, d'où tu viens, là, 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 là. Donc essayer de faire connaissance. De manière d'abord sincère, voilà, Nini telle qu'elle est, Mahmoud telle qu'il est, et puis ensuite chacun de son côté, on essayait de faire des listes de questions. Qu'est-ce qu'une femme française peut se poser comme question à propos d'un jeune homme égyptien, musulman, arabe, noir, voilà. Qu'est-ce qu'un jeune égyptien peut se poser comme question à propos d'une femme mûre, française, etc. Et puis après, on a fait avec des cheveux courts.
C'est une grande question dans le spectacle.
Et puis on a fait des questions, les questions les plus imbéciles, les questions les plus racistes, les questions les plus naïves. Et puis, et donc chacune de ces questions, ensuite on les éprouvait en improvisation. Et donc chacune de ces questions appelait chez l'une et chez l'autre des réponses. Et petit à petit, comme ça, on a tricoté des bouts de dialogue et voilà, des bouts de séquences.
Et donc tout commence par le commencement dans Mahmoud et Nidi, c'est-à-dire les présentations.
C'est le foot.
Ah, bonjour. Comment tu t'appelles?
Mahmoud.
Enchanté, Mohamed. Et tu viens de quel pays?
Madame Mansri, de Caire.
Le Caire, waouh! Ah, j'ai toujours rêvé, moi, voir le Caire.
Ah, c'est le Mahmoud.
Oh ben oui, les pyramides.
Ainsi commencent Mahmoud et Nini avec cette ambiguïté sur le nom, c'est-à-dire que vous êtes Mahmoud et vous l'entendez comme Mohamed. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous avez du mal
vraiment,
à dire
je
son
ne
nom.
Sais
vous
plus. Savez plus. Maintenant, je ne sais plus. Quelqu'un s'en rappelle là sur la
table. Ça dit comment la rencontre est complexe dès le premier mot échangé, parce qu'il y a un premier glissement et finalement un premier préjugé. Tous les Arabes s'appellent Mohamed. C'est bien connu.
Bah oui. Hein,
mais il y a quand même une morale, c'est qu'à la fin, on apprend qu'il s'appelle quand même aussi Mohamed. Tous les Arabes s'appellent quand même aussi Mohamed. Non, mais là, si vous voulez, le spectacle, on peut le décrire aussi comme une expérience des préjugés que les unes peuvent avoir sur les autres. Et ça fait partie des choses, voilà, qui reviennent tout le temps. On s'est beaucoup posé la question de savoir est-ce qu'on le garde ou pas, parce qu'on trouvait que c'était un petit peu gros. Et puis quand Mahmoud nous a raconté qu'à au moins deux reprises, se présentant dans une administration française devant des personnes parfaitement ouvertes, intelligentes, sympathiques et accueillantes, qui prenaient son passeport pour remplir des dossiers, etc. Et donc écrivait prénom Mahmoud, etc. Et passait l'heure qui suivait à l'appeler Mohamed. On s'est dit qu'on allait le garder quand même parce que voilà, la réalité est à ce niveau, quoi, voilà.
Et vous allez ainsi de préjugé en préjugé. Tout à l'heure, en parler, j'évoquais les cheveux courts pour un jeune homme vivant au Caire, une femme occidentale qui a les cheveux courts. De quoi s'agit-il ?
D'accord. Et c'est bizarre. Mais il y a beaucoup de gens, en fait, ou le monde arabe, qui pensaient. Les femmes avec les cheveux courts, qui aussi européens, ils sont lesbiennes.
Forcément.
Forcément, oui. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça. Il y a beaucoup de gens aussi.
Mais c'est ce que vous pensiez aussi? C'est ce que vous avez pensé à un moment dans votre vie?
À moi?
Oui.
Non, absolument pas. Non.
Donc vous êtes des acteurs qui portaient aussi les préjugés de certaines sociétés.
Exactement.
Complètement, c'est ça. C'est ce que disait, je crois, Henri Jules au départ. C'est voilà, un mélange entre nos propres préjugés, peut-être, que l'on peut avoir, et puis ceux qui sont plus généraux, on va dire. Et voilà, donc c'est un mélange. Il y a du vrai, il y a du faux dans ce qu'on raconte. C'est un peu nous et pas complètement nous. Et voilà, c'est un mélange de tout ça.
C'est quoi un préjugé? C'est parler à la place de l'autre?
C'est avoir une idée sur lui que la réalité ou la rencontre n'arrive pas ou arrive difficilement à remettre en question. Quand le préjugé, ça la vie longue, c'est tenace. Enfin, moi, vivant dans les mondes arabes depuis des années maintenant, je me surprends plus souvent qu'à mon tour à agir ou à penser selon des préjugés hérités. En fait, on est tous, mais pas que nous les Européens, hein, les Africains, les Arabes, pareil, on croule sous des couches et des épaisseurs d'idéologie, et il suffit pas de décider de claquer des doigts un jour en disant mais non, moi je suis un libéral, je suis ouvert et j'arrête avec les préjugés pour que ça marche. Vous les chassez par la porte et ils rentrent par la fenêtre.
Dans votre spectacle, Henri-Jules Julien, il est quand même beaucoup question sur cette question des préjugés, de sexualité et de religion. Est-ce que ce sont les deux grands thèmes qui sont aujourd'hui clivants et qui empêchent parfois la rencontre et la compréhension?
En tout cas, ce qui est clair, c'est que dans mon intention, je voulais mettre les pieds dans le plat de la rencontre interculturelle, si on peut dire, mais vraiment les y mettre. Donc,
qui peut être une tarte à la crème. Hein.
Absolument, oui. Mais donc, pour ce qui est de notre côté européen, quand on considère... Le monde arabe est musulman, enfin de notre point de vue, semble, alors qu'il ne l'est pas, enfin il l'est majoritairement, mais enfin il n'est pas que musulman, d'une part, et puis le problème des femmes, de la sexualité, le tabou, voire la criminalisation de l'homosexualité, etc., etc. Donc ça, c'est objectivement, c'est des choses qui existent. Donc je voulais mettre les pieds dans ce plat-là, avec une espèce de boussole qui était quand même de balayer devant ma propre porte et de faire que Mahmoud balaye devant la sienne aussi, quoi. C'est-à-dire de pas faire des leçons de choses à des gens qui auraient des préjugés, moi qui n'en ai pas. Moi, j'en ai autant que d'autres, donc voilà.
Oui, il y a égalité.
Il y a égalité. Alors, il y a égalité. C'est-à-dire que tout le monde a ses préjugés.
Mahmoud n'a pas l'air tout à fait d'accord.
Oui, mais il y a une phrase dans le dernier livre de Gérard Noiriel, là, sur l'histoire populaire de la France, qui parle pas du tout de questions comme ça interculturelles, mais qui dit ce qui distingue les êtres humains, ce n'est pas le fait d'avoir ou pas de préjugés, mais de pouvoir ou pas les imposer à d'autres. Donc, je pense que là, c'est vraiment, je peux le mettre en exergue de notre travail. C'est-à-dire que les Égyptiens n'ont pas moins de préjugés sur les Français que les Français ont sur les Égyptiens. Par contre, notre capacité à les imposer, nous, Français, aux Égyptiens, elle est autrement importante. Donc là, il acquiesce, pour ceux qui n'ont pas la télévision, Mahmoud.
Alors, dans le spectacle, vous êtes Mahmoud Hennini face public, vous l'avez un peu expliqué, de chaque côté de la scène, entre vous, il y a un écran horizontal sur lequel vient s'inscrire la traduction. Il y a une scène d'ailleurs assez drôle, où vous interrogez le rôle de la traduction, parce que tout d'un coup, la traduction est aussi une forme d'appropriation du langage de l'autre, et la parole vient avant même la traduction, Virginie. Vous savez pas quoi dire.
Non,
non, mais c'est assez drôle, cette scène. On peut la raconter davantage.
C'est celle où il y a les où il y a l'incompréhension de la machine par rapport
oui,
à la
absolument.
Traduction. Ouais, ouais, ouais. Enfin, non, où il y a plusieurs celle... moments. D'ailleurs,
voilà,
par rapport
donc
à ça.
On n'est pas d'accord déjà là sur ouais. la scène.
D'accord, ok. Moi, je vois rien. Hein. L'écran, il est derrière. Moi, je vois pas ce qui est mis. Il met ce qu'il veut d'ailleurs.
Non, mais je pense que vous parlez peut-être plutôt du moment où le Mahmoud anticipe la traduction.
Voilà. Oui, sur vraiment, la. D'accord, ou ouais. moi, je. Ouais, ouais.
En tout cas,
c'est très clair. Hein,
c'est absolument clair. En tout cas, ça résonne un peu.
On c'est est... un enfer en fait, c'est que ça n'arrête pas. En fait, on a une flou à ce point-là.
Oui, en fait, ça a été un enfer.
Ce mais ça continue.
Ça reste, hein.
À l'enfer, alors, on est au fond de la salle. Ça résonne un petit peu. C'est à Avignon. C'est Mahmoud et Nini.
Femme, française, provinciale, cheveux courts, mais pas lesbienne. Pas marrante, pas confiante. Toi, le bel aumône bien au teint de cuivre et moi, la petite française un peu conne. Faut pas m'aimer. Souviens-toi de ce que tu as dit. On joue la rencontre interculturelle. Et là, bah, c'est le clash. L'incompréhension, l'altérité, le fossé culturel. On enfile les lieux communs.
Face à face entre Mahmoud et Nini avec ce rire qui éclate tout au long du spectacle parce
paraît-il,
que c'est un rire de gêne, c'est un rire de dégagement.
Oui, sûrement un peu tout ça, de gêne, de dégagement, de libération effectivement, de voilà, ça et de vie et plein de voilà.
Et puis il y a ce rire et puis il y a aussi l'émotion qui perce à la fin. Vous dites qu'il y a la possibilité d'une rencontre Henri-Jules-Julien, mais je trouve qu'elle a lieu. Alors je raconterai pas tout le détail parce qu'en fait il y a une proposition de mariage blanc qui se fait entre vous et une danse qui se lève comme ça sur scène. Mais ça finit bien.
Non. Oui, oui. Ça, enfin, disons que là, ouais, il y a un chemin. Après, est-ce qu'ils vont vraiment le prendre, je sais pas. Mais, enfin, j'espère en tout cas que, en tout cas, c'était pas du tout ma tentative de faire une leçon de rencontre, d'essayer de faire comprendre comment on arrive à comprendre l'autre.
Après, mais du chemin a été fait.
Du chemin a été fait, oui. Parce que, si vous voulez, moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette histoire de rencontre interculturelle, de mettre les pieds dans ces questions de préjugés, c'était qu'elle soit faite par des personnes qui soient des gens bien, en fait. C'est des gens bien, de bonne volonté, sensibles, et qui font vraiment des efforts, et qui, malgré cela, se prennent les pieds plus souvent qu'à leur tour dans le tapis, et prennent des murs, parce que c'est pas facile, parce que on peut blesser l'autre très 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 facilement sans s'en rendre compte et être blessé, etc., etc. Donc la rencontre, en fait, c'est un effort continuel. En fait, c'est un travail, quoi. C'est le travail de traduction. Voilà. S'il y a une morale, c'est ça. Il faut continuer de traduire. Voilà.
Votre impression sur cette rencontre, elle a lieu quand même, Virginie Gabriel?
Sur elle a lieu, oui, je pense qu'elle a lieu véritablement, effectivement, même s'il n'y a pas de compréhension à travers les mots, il y a aussi effectivement une compréhension, enfin tentative de compréhension de la culture de l'autre, et puis là, avec tout ce qu'on a vécu, en tout cas nous, après, de façon plus personnelle, mais sur voilà, cette histoire qui existe depuis maintenant presque 2 ans, et ben voilà, il y a une véritable rencontre qui s'est faite.
Et vous êtes dans la main sur scène.
Main dans la main sur scène. À la
si
fin.
On parle d'un mot qui serait celui de Avignon, Mahmoud El Haddad, ça évoque quoi pour vous, ce mot d'Avignon et ce festival? Est-ce que vous en rêviez en tant qu'artiste, danseur égyptien?
D'accord. En fait, c'est la deuxième fois pour moi, en fait, être en Avignon. Et la première fois, c'était en 2015, je crois, avec une compagnie égyptienne. Pour un spectacle aussi, il s'appelle The Last Supper, par Monsieur Ahmed Al-Attar. Et c'était la première fois en Avignon. Et c'était.
Et vous aimez cette énergie? Parce qu'il y a une énergie, une fatigue,
oui.
Et une énergie.
Oui. Non, mais c'était très, très, très bien, en fait. J'aime l'expérience.
Moshella, dans un mot, vous aimez Avignon?
Oui.
Qu'est-ce qui vous stimule? Le public,
le
les rencontres. Merci à vous. Vous m'aurez décidément décontenancé aujourd'hui. Le grand feu avec vous, Moshella, au Théâtre des Dons, et Mahmoud et Nini dans les salons de la Maison Jean Villard jusqu'au 22 juillet. Merci à tous. Guillaume Ploquin, Véronique Durand, Philippe Nadel.